Avec Philippe Pointeclou, on va rentrer dans des considérations plus qualitatives peut-être. On vous a exposé quelles étaient les intentions et le pourquoi de ces intentions. Là, on va peut-être plutôt être dans l'observation de ce qui se fait effectivement sur le terrain, des entreprises que vous connaissez bien, que vous fréquentez beaucoup, et pour savoir dans quelle mesure, une fois de plus, pour revenir aux fondamentaux, je dirais, les objectifs que l'on a assignés à la gouvernance et à l'amélioration de la gouvernance d'entreprise, à savoir la possibilité d'avoir à l'intérieur de l'entreprise, sinon des contre-pouvoirs, au moins des éléments permettant d'évaluer la performance effective des dirigeants, des décisions, d'avoir un rôle de surveillance, comme vous disiez, sur les décisions prises et sur la possibilité pour les différentes parties prenantes de l'entreprise, alors des actionnaires d'une part, mais peut-être aussi d'autres parties prenantes. Après, il faudra qu'on discute justement dans le débat sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus radical à faire sur la direction des entreprises, sur les représentations et sur les contre-pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise. Bien. Mais en tout cas, sur le fait qu'il y ait un contrôle effectif pour éviter que les décisions managériales ou des directions aille à un moment donné à l'encontre de l'objet social de l'entreprise ou à concilier en tout cas les intérêts directs de cette entreprise, de l'entreprise, de ses actionnaires avec l'intérêt plus général de la société. Qu'est-ce qui se passe effectivement de ce côté-là dans les entreprises aujourd'hui? Celles que vous connaissez bien sûr.
Je disais que pour la faire ça, il n'y a absolument pas de délai de gouvernance. Enfin, pour la faire ça, c'est des délai de conseil, de gestion des ressources humaines et de conseil auprès des assurances. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui se sont ici, mais on a un délégateur au niveau mondial, on est tous les ans, c'est pas plus large. Donc, on a la suivante des conseils, je suis directeur pour la France. Et pourquoi je suis en fait, on travaille beaucoup pour les comités d'intervention. Pour la France, c'est peut-être pareil dans les pays européens et les pays anglo-saxons. Et c'est l'activité exécutive pour le prochain comité du Conseil européen concernant le cadre de rémunération, conseil en matière de rémunération pour les managers sociaux et dirigeants d'entreprise, c'est une des plus importantes. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la gouvernance? Certes, en France, je crois qu'on n'a pas trop à rougir, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'une manière générale, ce sont les excès de certains qui amènent, alors là, c'est un marché, vous aurez peut-être, mais qui amènent des réglementations ou, je dirais, des législations. Parce que, ayant été interrogé par la Cour financière sur certaines décisions qui avaient été prises, je dirais, du comité d'amélioration et du conseil d'administration, c'est assez étonnant de voir les réponses qui sont faites par les administrateurs. Donc, aujourd'hui, en France,
mais encore.
Non, je ne peux pas dire de plusieurs choses, mais ce que je veux dire, c'est que mais je crois qu'on a beaucoup évolué sur la petite lorgnette des comités d'amélioration et les travaux qu'on fait pour les comités d'amélioration et tout ça, on en fait beaucoup. Simplement, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'administrateurs qui vont, en matière de rémunération, qui vont s'opposer à un président. Le président d'une entreprise depuis 15 ou 20 ans, c'est même le reconnaître de manière générale. Et que quelque part, c'est assez intéressant parce que vous prenez un président qui est là depuis longtemps, mais il connaît relativement bien, on va dire, tous les éléments qui composent sa rémunération. Quand vous êtes dans un comité de rémunération, en général, vous avez une certaine rotation, donc au bout de 6 ans, il y a un nouveau comité qui a peu de chance de se souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Il y a quelques, je dirais, pas exceptionnels d'entreprises où il y avait des retraites chapeaux, où c'était, les acteurs comprendront, où la retraite était 60% de la rémunération, 50% de le calcul de la rémunération finale du président. Et dans ces premières années, sa rémunération est passée de 2 à 4 millions. Tout simplement parce que les administrateurs avaient oublié qu'il y avait une retraite de chapeau et passé de 2 à 4 millions. En matière de retraite, c'est un cadeau en plus de la rémunération de 20 millions d'euros. Donc vous voyez que j'ai une vision un peu différente. Ce que je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui, le vrai test sur cette petite année de la rémunération des dirigeants et donc de gouvernance d'entreprise, c'est que la rémunération des dirigeants, quel que soit leur niveau, soit variable en fonction de la performance de l'entreprise. Alors on pourra parler de la performance, que c'est la performance financière ou la performance financière et puis les éléments de performance sociétaux. Mais en tout cas, tout cela, on voit, on a vu apparaître depuis 10-15 ans, je dirais, une meilleure gouvernance en France, et aujourd'hui, on n'a pas trop à rougir par rapport aux autres pays européens. Certes, il y a encore des excès, certes, il y a encore du temps noir, mais ceci étant dit, si j'ai un commentaire, c'est relativement bien. En revanche, ce qu'il faut prendre conscience, et là, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que faire une discrétion sur le rôle de l'administrateur. Si vous êtes président directeur général d'un groupe de 40 et que vous êtes administrateur d'une autre entreprise, si j'ai bien compris, il faut consacrer un mois et demi par an au seul autre conseil auquel vous participez. Donc imaginez, vous êtes président directeur général d'un groupe de 40, vous êtes membre de deux comités de deux conseils d'administration de groupe de 40. Ça vous bouffe gentiment trois mois à l'année. Vous pouvez imaginer que si trois mois d'année, imaginons qu'ils prennent trois mois de vacances, eh bien, il aurait donc, je dirais, huit mois consacrés à son entreprise, donc peut-être le manager. Ça vous prouve là que quelque part, c'est juste impossible. Ça prouve aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde le travail qui est fait par les administrateurs, c'est un travail qui est juste imposant. Quand vous êtes administrateur d'une institution financière, je dirais, et que vous êtes soit président du comité de l'UIC, soit du président du comité de l'UIC, je vous assure que vous avez un boulot qui est très très prenant. Donc, on a un vrai débat où, aujourd'hui, quand vous êtes président en plein temps d'une entreprise, président général en plein temps d'une entreprise, c'est bien possible d'être président d'autres conseils d'administration, d'être membre d'un conseil d'administration.
Et pourtant, c'est souvent le cas.
Oui, c'est souvent le cas. Donc, ou alors, vous prenez, je dirais, plus rapidement vos décisions. Donc, c'est juste un point qu'il faut regarder. Décisions qui sont quand vous êtes, il faut reconnaître, quand vous êtes président d'un directeur de l'entreprise aujourd'hui, la quantité de décisions que vous devez prendre, je dirais, est absolument faramineuse. Et que c'est juste une fonction qui est assez efficace pour le reconnaître. Je vous propose de voir, je vous assure. Donc, ça, c'est ce que je vais dire. Donc, revenons maintenant sur le plan de la gouvernance. Je crois qu'en France, ce qui a été assez essentiel aujourd'hui, c'est que, à partir des excès, il y a eu des recommandations, il y a eu une législation. L'Europe, maintenant, c'est des recommandations, je dirais, plus que du tout monde qui sont utilisées assez rapidement. Et donc, tout ça, on voit que quelque part, j'ai plutôt tendance à dire que les vrais pas en avant ont été amenés par la correction d'excès et la correction d'excès par la puissance publique.
Voilà.
Donc, en revanche, il faut quand même reconnaître que on n'a pas à rougir aussi d'anciennes entreprises que 40 et du SPF 80 de la manière dont sont prises les décisions au niveau des comités d'administration. Dernier point, et je dirais également, je crois que si on veut que les comités d'administration soient des véritables contre-pouvoirs au président, et que ça parfois soit très compliqué, il serait intéressant de se poser la question, est-ce que les membres des conseils d'administration ne pourraient pas être responsables individuellement des décisions qu'ils prennent, qu'ils demandent à leur management de prendre. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Aujourd'hui, je dirais, un administrateur peut attaquer le conseil en justice, mais le résultat de ça sera lui et la vie. En revanche, si vous êtes administrateur et que vous êtes responsable des décisions que vous êtes amené à faire prendre ou à contrôler, bien ça changerait peut-être le rôle et le contre-pouvoir vis-à-vis de certains questions. Merci.
Merci. Effectivement, il y a la question de la responsabilité. et la responsabilité juridique. Donc, pour qu'il y ait une responsabilité effective, il faut qu'à un moment donné, il y ait effectivement une responsabilité juridique. Et du fonctionnement dans le fonctionnement des entreprises de manière générale, hein, pas seulement en France, peut se poser. J'aimerais bien savoir si il y aurait des évolutions radicales de ce point de vue-là que vous verriez, que vous recommanderiez, de façon à. Je vais m'adresser. Oui, un dernier point. Oui.
Il n'y a pas trop d'évolution. Mais je dirais que quand j'étais membre du conseil d'administration de Arsperin pendant 5 ans, je peux vous assurer qu'aux États-Unis, quand vous êtes, vous certifiez les comptes, vous saluez les directeurs financiers ou le membre du président du comité d'audit, eh bien, c'est vous, en tant que personne, qui prenez le risque. Du coup, le président du comité d'audit, le président du comité de finances, je dirais, le conseil d'administration du grand groupe américain, ce sont de vrais rôles, ce sont des gens qui sont bien rémunérés en tant qu'administrateurs. Maintenant, il y a tous les scandales qui existent dans ces cercles-là, mais il y en a certains qui se terminent en prison. Je n'ai pas vu des administrateurs français qui se sont en prison.
Daniel Lebeg, un commentaire sur ça.
La responsabilité des administrateurs est assez définie, hein. Il y a la loi, il y a la jurisprudence. Les administrateurs, comme les dirigeants, peuvent être responsables des fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leur mandat, soit collectivement au niveau de l'ensemble, soit individuellement. Bien entendu, on peut mettre en cause la responsabilité individuelle d'un administrateur qui a commis une faute. Ce n'est pas une décision collégiale, collective de conseil. Voilà le droit. Est-ce qu'on a souhaité une application plus rigoureuse du droit, c'est au magistrat de décider. La Cour d'appel de Clermont-Ferrand vient de condamner collectivement tous les membres du conseil d'administration qui ne s'étaient pas opposés à l'arrêté des comptes de l'entreprise, comme on l'a dit avant, alors même qu'ils savaient que ces comptes ne reflétaient pas la réalité de la vie. Et pour la peine de nuit, je vous demande si vous êtes collectivement responsable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, moi, l'idée de protéger les administrateurs. Non, il y a un régime de responsabilité. Évidemment, il faut l'appliquer. Sur votre point précédent, le premier commandant qui est vraiment un point très important, dès 2005, notre Institut français des administrateurs a recommandé de limiter à 2 le nombre des mandats d'un dirigeant exécutif d'une entreprise peut détenir pour l'administrateur dans une entreprise externe. Pas plus de 2 mandats. Pour l'instant, la loi limite à 5 le nombre des mandats.
Et la moyenne.
On va me demander si 2, effectivement, ça n'est pas trop. Au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas la loi, parce qu'une pratique, on limite plutôt à 1 le nombre des mandats des dirigeants.
Alissa, vous vouliez ajouter un commentaire sur ce sujet,
juste
de la responsabilité du conseil d'administration individuel.
Exactement. Sur le plan général, on voit que dans les pays de l'OCDE, c'est une pratique qui est très souvent, qu'on voit très souvent, c'est-à-dire les actionnaires des entreprises publiques peuvent faire une action légale contre l'ensemble des conseils d'administration, soit un membre des conseils d'administration. Et il y a aussi des cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'évidence de l'application de ces procédures dans certains cas. Par contre, ce qu'on voit dans les pays émergents, même si le, comment qu'on appelle le duty of fiduciary duty ou le duty of loyalty, il est très clairement défini dans la loi, il y a très peu de cas des actionnaires qui fait une action légale contre soit un conseil d'administration, soit un membre de conseil d'administration. Et c'est aussi peut-être à cause de structures concentrées, c'est-à-dire les entreprises se sont détenues majoritairement par une ou deux actionnaires qui ont le pouvoir de nominer le membre de conseil, et du coup, ça limite le nombre des cas où vraiment ce genre de pratiques sont.
D'accord. On va prendre des questions dans la salle, dans la mesure où je peux voir les mains. Oui, en voici une au premier rang déjà. Oui, non, mais je me tiens à la première personne que j'ai vue. Est-ce qu'il y a des micros par là? Voilà.
Vous avez beaucoup parlé finalement des attributions des membres des conseils d'administration et d'un rôle que vous avez beaucoup évoqué qui concerne l'arrêté des comptes et les rémunérations des dirigeants. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui devraient être plus évoquées dans vos interventions concernant le rôle des administrateurs? Par exemple, une grande entreprise française, le conseil d'administration vient de créer un comité de cohérence économique et sociale. Donc, est-ce que vous pensez que cette évolution du rôle des conseils d'administration vers une prise en compte de ce que vous avez qualifié de capital humain tout à l'heure, mais qui concerne plus centralement le fonctionnement quotidien des entreprises, est-ce que ce n'est pas aussi important que de s'intéresser de la rémunération des dirigeants, même si parfois elle pose de véritables problèmes?
Oui, mon introduction et ma conclusion, la première fonction du conseil d'administration, c'est la fonction stratégique. Il faut aider avec le management à fixer le cadre, la stratégie, et il s'assure que cette stratégie est bien mise en œuvre. Ça, c'est un rôle clé du conseil. Et puis, nous avons entendu dire que dans la discussion du conseil, dans l'agenda du conseil, il sera souvent l'idée de faire un peu plus de place au capital humain, à la relation client, à l'impact de ce que fait l'entreprise sur la société, sur l'environnement, etc. Oui, bien sûr, c'est le sujet auquel on devrait apporter plus de place dans le conseil aussi.
Oui, alors j'ai parlé de la petite lorgnette sur laquelle on travaille, hein. Mais il est évident qu'aujourd'hui les conseils d'administration, je dirais, regardent la responsabilité sociétale, non pas sociale, sociétale, c'est un peu plus large, de l'entreprise dans laquelle ils sont. Que ce qui est aussi intéressant à voir, c'est dans l'évolution, alors certes des systèmes de rémunération, mais à l'intérieur des systèmes de rémunération, il y a de plus en plus d'éléments qui ne sont pas simplement financiers, en particulier pour les mandataires sociaux, qui ne sont pas forcément financiers, mais qui sont liés, par exemple, à tout ce qui est préparation de l'avenir, travaux sur, je dirais, le développement durable, qui est quelque chose de relativement important. Donc oui, tout ça, ça se fait. Ce n'est pas simplement les comptes, la stratégie et puis les rémunérations, hein. C'est juste un raccourci qui a été fait, mais il y a une vraie évolution. Vous regardez sur les rapports annuels des entreprises, il y a une véritable évolution sur la prise en compte, comme je disais, la responsabilité sociale, le développement durable, et ce n'est pas simplement des mots, parce que quand c'est repris dans les systèmes de rémunération, ça veut dire que ça a un poids dans l'entreprise. Voilà.
Les cas où c'est repris dans le système de rémunération ne sont pas si nombreux que ça, quand même. Il y avait une question au premier rang. Au deuxième.
Bonjour, je me présente Christian Ponsol, administrateur délégué à la direction générale de la MAIF. Vous voyez, c'est le logo que vous avez en bas de l'écran, là. Voilà, nous sommes partenaires depuis plusieurs années des journées de l'économie. Ça nous paraît particulièrement important. Et je voudrais donner très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, un regard un petit peu différent sur la gouvernance d'entreprise, puisque la MAIF, c'est un acteur essentiel de l'économie sociale. Et eh bien, nous sommes confrontés, bien entendu, à la gouvernance d'entreprise. Nous sommes une entreprise qui représente 6500 salariés. Ce n'est pas rien. Et nous avons nos problématiques. Problématique d'abord, que les choses soient très claires, parce que l'économie sociale, ça représente quand même entre 8 à 10% du PIB en France. C'est plus de 2 millions de salariés. Donc à partir de là, il faut quand même, bien sûr, que les choses soient très claires. L'entreprise a pour but de produire des richesses. Autrement, elle ne pourrait pas, bien sûr, continuer. La seule chose, c'est que la finalité de l'entreprise, ce n'est pas de redonner à des actionnaires, mais à ses adhérents, à ses sociétaires, et ça modifie complètement le concept. Et notamment sur le concept de gouvernance, parce que nous sommes très attachés au concept d'une personne, une voix, et l'administrateur que je suis, bien, est d'abord un sociétaire, a été élu par un processus démocratique, et ensuite accomplit toutes les fonctions que notamment Daniel Labègue a énoncées tout à l'heure, dans le cadre de la responsabilité de l'administration, de l'administrateur. Pardon. Le rôle du CA chez nous, c'est entre 10 et 12 CA par an. C'est plus d'une demi-journée à chaque fois. C'est un comité d'audit des comptes, bien sûr, un comité des rémunérations. C'est aussi un comité de sélection des administrateurs et des principaux dirigeants. Ça nous paraît particulièrement important. Il y a une notion aussi qui est très forte, c'est l'ancrage territorial. Dans le domaine de l'assurance, nous travaillons beaucoup avec ce qu'on appelle des plateaux téléphoniques. Eh bien, nous nous interdisons les délocalisations et de travailler avec des pays émergents. Sur la rémunération des dirigeants, c'est particulièrement important parce que c'est un plafonnement et puis surtout c'est une grande transparence. À chaque assemblée générale, la totalité ou des rémunérations ou des indemnités des administrateurs sont projetées au niveau...
Excusez-moi, oui. je vais devoir vous interrompre pour que oui. Laisser plus de place aux questions, effectivement.
Une question.
Mais une question qui est à poser à partir de votre intervention, c'est effectivement, est-ce qu'il existe des formes alternatives de construction du pouvoir dans l'entreprise qui régleraient un certain nombre de problèmes que l'on a soulignés depuis le début de ce débat? Est-ce que l'économie sociale, en l'occurrence, présente... ce type de solution, c'est pas forcément. Enfin, on peut en discuter, hein, mais ça se saurait. Enfin, voilà, c'est simplement. Si cette forme-là avait été effectivement plus efficace et conciliait l'ensemble des intérêts des parties prenantes et de la société et de l'entreprise, de la vocation d'entreprise, la forme mutualiste ou coopérative se serait répandue à la surface de la terre capitaliste sans aucun problème. Ça n'a pas été historiquement le cas. Donc, il y a aussi. Enfin, on peut en discuter, mais. Mais il peut y avoir discussion sur effectivement des formes juridiques alternatives au fonctionnement de l'entreprise telle qu'on l'a vu jusqu'ici. Parce qu'après tout, ce fonctionnement est une étape historique dans l'histoire du capitalisme. On peut imaginer qu'il y ait d'autres choses qui se fassent après.
Bien sûr. Je voilà. Constate juste donc, que M. Fillon, suite à la crise de 2008, a remarqué que les entreprises de l'économie sociale dans le domaine de l'assurance notamment, avait particulièrement mieux résisté à la crise. Et donc, il vient de réactiver, via Philippe Daubresse, une fondation pour l'économie sociale. Et comme il y a beaucoup de jeunes, et je terminerai par là, je voudrais leur dire qu'il y a une fondation qui vient d'être créée sur, ça s'appelle Jeunes et l'économie sociale, qui va essayer de démontrer qu'il y a d'autres possibilités. Et par rapport à des jeunes qui seront demain les cadres de nos entreprises, eh bien, qu'ils sachent qu'il y a des possibilités alternatives, surtout qu'un sondage vient de sortir auprès des jeunes qui dit que 62% des jeunes sont prêts à ne plus voir uniquement la rémunération pour trouver un emploi, mais de voir quelle est la qualité sociale de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler demain. C'est et ça, je crois que c'est particulièrement important.
Monte, mais voilà, et ça s'exprime Merci. De diverses manières. J'avais une question au deuxième rang, là-bas. Bien, ici. Après.
Oui, bonjour. Catherine Sauvia, de l'Institut de recherche.
Plus près le micro, s'il vous plaît, j'ai pas
oui,
entendu.
Catherine Sauvia, Institut de recherche économique et sociale. J'ai deux questions. La première s'adresse plutôt à M. Labègue. Comment a évolué ou comment voyez-vous aujourd'hui la position du patronat, des employeurs, des entreprises du CAC 40 et également peut-être aussi de votre institut sur la présence d'administrateurs salariés au conseil d'administration des entreprises, c'est-à-dire des représentants des salariés, non pas, pas seulement des actionnaires salariés, hein, en tant que représentants les intérêts d'autres parties prenantes de l'entreprise. Et une deuxième question qui s'adresse plus largement à l'ensemble des intervenants, c'est, et qui a un rapport avec la dernière question qu'a posée Pierre-Yves Gomez sur le lien entre crise et gouvernance d'entreprise. Cette crise, elle a d'abord été une crise, on l'a vu au cours de la première journée, d'abord une crise financière, excusez-moi, bancaire, avant d'être économique, pose aussi, me semble-t-il, enfin elle a posé un problème de gouvernance d'entreprise au sein des banques. Parce que s'il est vrai, comme nous l'a rappelé M. Lebeg, que l'une des missions des administrateurs, c'est de gérer les risques, hein, de contrôler les risques, il me semble qu'il y a eu des petits problèmes de ce côté-là au sein du secteur bancaire. Donc,
moins qu'on puisse dire. Voilà. On va prendre plusieurs questions, ça sera plus simple si vous souvenez bien sûr des questions posées. Il y avait un jeune homme là-bas, excusez-moi, en orange, avec une écharpe. Je décris parce que je ne vois qu'à moitié.
Oui, bonjour, je suis actuellement étudiant en licence 3.
Plus fort et plus près.
Bonjour, je suis actuellement étudiant en licence 3, spécialité audit et gestion. Et donc je voulais savoir si selon vous, la gouvernance actuelle était encore issue du dogme ancien des nœuds de contrat, comme l'avaient souligné Cause et Williamson, ou si avec une gestion des coûts d'opportunité, donc c'est pour ça qu'a été créé les coûts d'agence, etc. Ou est-ce qu'elle a basculé plutôt vers une approche moderne liée aux ressources, avec une considération dans la gouvernance du sentier de dépendance des entreprises, ainsi que par exemple des compétences, qu'elles soient organisationnelles, humaines ou environnementales? Et ou est-ce que ce sera un basculement futur qui est envisageable? Et dans un deuxième temps, est-ce que selon vous, les outils pour une bonne gouvernance sont la transparence totale de l'information et l'indépendance des membres des comités, comme l'a pu souligner le professeur des universités, M. Wirtz, dans son ouvrage, par exemple, Les meilleures gouvernances d'entreprise?
C'est bien, vous citez vos sources. Troisième, juste devant, voilà.
Oui, bonjour, je suis Benhamou, conseillère en formation continue. Moi, je voudrais revenir à une question très simple autour du domaine spécifique de la gouvernance d'entreprise par rapport au management de l'entreprise. Parce qu'on parle du management de l'entreprise, là vous nous parlez de la gouvernance d'entreprise. Est-ce qu'il y a des liens entre management et gouvernance et quelles sont les frontières? Ou s'il n'y a pas de frontières, pourquoi inventer un nouveau terme?
Pierre-Yves Gomez peut répondre à la dernière question, qui est plus simple, effectivement. Enfin, si tant est qu'une question soit simple. Plus près du micro.
Si on ne regarde que le CAC 40, donc je dis ça fonctionne comme ça, et donc l'économie d'entreprise fonctionne comme ça, malheureusement comme ça, on ne comprend pas l'économie sociale, on ne comprend pas une partie, on ne comprend pas la société, on ne comprend pas la fondation, on ne comprend pas le PME, on ne comprend pas les prix familiales. Donc, c'est bien sûr plein d'autres formes de gouvernance, et y compris pour les grandes entreprises cotées, la forme allemande, grand État économique allemand, depuis 1967, 66, en Allemagne, vous avez un conseil de surveillance et un directoire, et un conseil de surveillance, c'est pour les salariés, c'est pour les actionnaires, que le sache, avec les fondements économiques des pays, au contraire. Donc, même dans les pays capitalistes les plus avancés, il y a des formes de gouvernance. Donc, je veux dire, parce que les jeunes qui sont alignés à notre réflexion, il y a des choses à avancer, il y a à inventer un problème un peu anti-quignon sur les questions qui sont réservées et qui sont importantes. On a terminé toute réflexion sur la gouvernance d'entreprise. La deuxième question, la troisième, je ne sais plus. La question sur ce pas, en fait, la crise. Je vous dis, je n'ai pas absolument la conviction. Oui, la crise, c'est aussi, c'est maintenant, une crise de légitimité, de gouvernance.
Daniel Lebeg, entre autres sur la question effectivement de la présence des salariés.
Oui. Notre inspecteur de position de 2005, je ne gâche pas les organisations patronales, madame. Donc, je parle au nom de l'État. Nous avons pris position de 2005 en faveur d'une présence de salariés dans les conseils, entreprises publiques comme privées. Nous décidons d'enrichir la gouvernance. Quel est le conseil apporter une connaissance intime des réalités d'entreprise et faire émerger des sujets qui ne viennent pas toujours à l'ordre du jour. Donc, nous sommes pour. On va faire certainement des propositions pour améliorer, renforcer la participation des salariés dans le conseil d'administration. Gouvernance de l'action. Alors, je vais vous donner la définition. Le management, c'est l'action de l'action d'entreprise qui est tournée vers la mobilisation possible des ressources de l'entreprise en vue d'optimiser sa performance. Donc, il est écrit à l'ordre. On pourrait faire une bonne gestion simplement avoir des choses plus ambitieuses. La gouvernance, pardon, de la première, la gouvernance surplombe. Dans la gouvernance, il y a d'autres acteurs avec lesquels je vous dis les administrateurs, les actionnaires, les parties prenantes. On pourrait dire la gouvernance, c'est un peu la constitution de l'entreprise et le management, c'est l'article 1 de la constitution. Le gouvernement, la constitution, définit et dirige l'action. Sur votre question, les littératures et les programmes, en ayant expert de l'interdiction, mais dans la dernière partie de la question, il y a une chose qui m'intéresse. La gouvernance, c'est personnellement, si vous n'êtes pas principalement des règles, des procédures, non. La gouvernance, ce sont beaucoup d'éléments de bonnes pratiques au niveau du secteur et dans les bons comportements, il y a aussi leur éthique, leur valeur. Donc, travailler sur les bons comportements, on a un groupe de travail avec ça, comment optimiser le champ collectif entre administrateurs et entre administrateurs et les gens. L'approche, je vais dire, sociologique, comportementale de la gouvernance. Je t'avais une question sur les banques. Bien sûr, il y a eu des finances dans la gouvernance. Voilà, on peut tout de même dire, 3 ans après, 5 ans après, les défaillances majeures sont mélangées pour le système mondial. Ce sont produits aux États-Unis et dans les pays d'influence anglo-saxonne. C'est là que les défaillances absolument dramatiques ont été observées. En revanche, nos banques françaises, de toutes les banques du monde, en termes de gouvernance et de gestion des risques, sont celles qui ont le mieux franchi la crise avec les banques brésiliennes.
Un dernier mot pour Philippe Pointclou, et après nous allons lever cette séance. Désolé, on ne pourra pas prendre de questions supplémentaires.
Oui, je voulais dire, M. Lachizine, les concurrents de banques françaises ont 40 milliards d'actifs pourris qui sont liés à des produits qui se sont pas investis ou qui se vendent aux États-Unis. Donc c'est quand même tout le monde. C'est un peu, pour répondre à votre question, c'est un peu le vrai souci aujourd'hui de. Du système financier, c'est qu'on peut faire des comités, il y a des tas de. L'Europe demande une directive. Je vois fondamentalement ce qui peut sauver le système financier, parce que si on ne fait rien, ça va recommencer dans 5 ans ou dans 6 ans, il ne faut pas tirer. C'est d'essayer de faire ce qu'on fait les institutions financières, les institutions d'assurance, avec solvabilité 2 ou solvabilité 2, qui permet de déterminer des contraintes très nettes entre les provisions et puis, je dirais, le capital social de l'entreprise, le capital des fonds propres. Et si les banques ont la même chose avec, je dirais, les produits, en particulier les fonds propres, les produits, notamment les produits agricoles sur lesquels. Elles ont des montants élevés. Là, on pourra peut-être sauver le système.
Ça, c'était le sujet de la table ronde précédente. Mais, oui. D'accord. Merci beaucoup à tous de votre présence. J'espère que c'est un sujet que vous continuerez à suivre parce qu'il est important.